L'académicien Jean Favier, médiéviste renommé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a prononcé une communication consacrée à l'Europe médiévale en séance devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 11 octobre 2004. Jean Favier traite d'un Moyen-Âge qui s'étend du 5e au 15e siècle, le resituant d'abord dans l'Empire romain, puis dans l'Empire de Charlemagne. Il aborde essentiellement la question des frontières, qui ne sauraient correspondre à ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe à l'aube du 3e millénaire. Il évoque bien entendu le rôle de l'Église, de la langue latine, de l'université dans une communauté d'esprit, bref, le mot « Europe » n'apparaît guère dans le vocabulaire des hommes du Moyen-Âge et pourtant, ces hommes-là savent qu'ils sont occidentaux et chrétiens et ils ont mis en place ce qui va cimenter l'Europe moderne.
Prenons tout d'abord une précaution qui semble aller de soi, mais qu'il vaut mieux formaliser. L'Europe dont je vais parler, c'est celle du Moyen-Âge, c'est-à-dire d'un millénaire qui va en gros du 5e au 15e siècle. Ce ne peut être ce que nous appelons Europe à l'aube du troisième millénaire. Ce que nous pouvons entrevoir, ce sont des esquisses, des ébauches, des tentatives dont il serait abusif de juger en fonction d'un aboutissement alors insoupçonnable, c'est-à-dire les réalités et les ambitions actuelles. Là comme ailleurs, l'anachronisme serait dangereux. Ce que l'on pourrait prendre pour des prémices n'en est pas pour les hommes du Moyen-Âge, c'est tout simplement leur vécu. Il convient donc de prendre le mot « Europe » avec les réserves qu'impose la vue historique. Les anciens empires ont eu ceci de commun qu'ils étaient définis par une mer entre des terres. Phéniciens, Grecs, Carthaginois ont bâti des empires d'abord faits de comptoirs et les trois continents ont essentiellement été les arrière-pays de ces empires. Les choses ont changé avec Alexandre, mais vers l'Orient. Elle change surtout avec l'Empire romain, le premier à avoir été fait de territoires étendus sur les trois continents. Malgré le rôle essentiel des marines romaines dans le système de relations internes de l'Empire, et même si les Romains prennent la Méditerranée pour leur bien propre, Mare Nostrum, les légions ont bel et bien contourné la mer. Frontière défensive, le limes n'a de signification politique qu'en circonscrivant un territoire, encore le centre demeure-t-il, le Mare Nostrum. L'Empire romain étant ainsi assis sur trois continents, le partage établi par Dioclétien en 293 est indifférent à la notion de continent. Ce qui détermine, c'est la capacité de communication. C'est la commodité politique et militaire. Lorsqu'à la mort de Théodose en 395, la scission entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident paraît définitive, elle ne fait que conforter ses commodités militaires. Lorsque la chute de Romulus Augustule, en 476, met en sommeil perpétuel l'Empire d'Occident, elle n'y met pas fin. Quand Justinien, au milieu du VIe siècle, reconstitue le pourtour jusqu'au Maghreb, il n'a donc aucun choix fondamental à faire. L'Empire romain n'a pas cessé d'exister, et Justinien en pousse simplement les frontières à raison de sa capacité de reconquête. Mais ce qu'il reconstitue, c'est bien un pourtour. Il ne tente aucun retour dans les profondeurs du continent ou de l'un des continents. Les choses changent entre le 8e et le 9e siècle. On se rappelle la question posée par Henri Pirenne, question à laquelle il n'est de réponse que si l'on admet de combiner les facteurs. Qui est responsable de ce changement, Mahomet ou Charlemagne? Il est vrai que l'islam crée une barrière dont on a longtemps exagéré la rigidité, mais dont il serait ridicule de nier la réalité. Même s'ils ne sont pas interrompus, les courants commerciaux s'étiolent, en tous les domaines, les influences réciproques s'atténuent, au vrai, le temps passe et la Rome antique s'éloigne. Portés par le regard des peuples, ceux qui, les Francs, entre autres, sont venus par le continent et non par les rivages de la Méditerranée comme naguère les Goths, l'intérêt du monde occidental se tourne maintenant vers les plaines de l'Europe centrale. Aux confins, il y a des peuples païens, des peuples à convertir, non ces Grecs jugés insupportables qui forment aux yeux des Occidentaux une barrière à l'Est et non un trait d'union avec l'Asie. Trois mondes se bordent donc, Un monde germanique qui se veut héritier du monde romain, mais ne songe même pas à l'héritage grec de celui-ci. Un monde byzantin dont la crise et le repli sont perceptibles. Un monde arabe dont l'expansion est interrompue et dont la présence est plus perceptible sur le pourtour sud, en Espagne comme en Italie ou en Sicile, que depuis l'échec de Poitiers vers le nord. Le monde romain, c'est maintenant un monde que politiquement on est tenté d'appeler franc, parce que les francs ont dévoré au VIe siècle les Visigoths, les Alamans, les Burgondes, puis les Bavarois et les Thuringiens, en attendant les Saxons et les Frisons, et qu'ils ont évincé pour une bonne partie de l'Italie les Lombards, qui avaient eux-mêmes pris la place des Ostrogoths. Mais il ne faut pas s'en tenir à une vue politique des choses. Charlemagne est roi des Francs et roi des Lombards, mais il se veut naturellement roi de tout l'ensemble, de cet ensemble territorial auquel son père et lui-même ont imposé la domination franque. Il est roi du tout. Cela cache mal la réalité ethnique, que reflète cependant la diversité prudemment maintenue des législations nationales. Ces peuples sont toujours là. Et c'est de leur fusion que va naître, lentement, une sorte d'identité culturelle commune, dans la diversité qui tient naturellement aux éloignements. Quant à ce que garde en Occident Byzance, c'est la peau de chagrin, de Venise à la Sicile, et les avancées des Arabes complètent contre la présence byzantine en Occident l'œuvre des Francs, de Pépin et de Charlemagne. Quoi qu'il en soit, Charlemagne porte encore le titre de roi des Lombards, mais son fils n'est plus roi des Lombards, il est roi d'Italie. La couronne ethnique est devenue une couronne territoriale. Les deux frontières de l'Europe perceptibles sont alors des frontières religieuses. Celle de l'Est contre les païens, celle du Sud contre les arabo-berbères de l'Andalous. À mesure que se multiplient les affrontements dogmatiques entre l'Occident carolingien et pontifical et l'Orient byzantin, j'allais dire et patriarcal, la frontière face à Byzance prend les couleurs d'une autre frontière religieuse. Si l'affaire de l'adoptionnisme ne concerne que l'Occident et principalement l'Espagne, l'affaire du filioque, c'est-à-dire de la définition du Saint-Esprit par rapport aux deux autres personnes de la Sainte Trinité, descend du Père et du Fils et non pas du Père par le Fils, et l'affaire du culte rendu aux images, surtout, sont au 8e siècle autant d'éléments de la nouvelle identité occidentale face à Byzance. Qu'est-ce que l'Empire pour Charlemagne ? Une décoration personnelle pour laquelle il ne prendra de disposition successorale qu'à l'extrême fin de son règne, quand la mort de deux de ses fils ne lui aura laissé qu'un unique héritier. Jusque-là, nous avons l'impression que ce titre reconnaissait le caractère exceptionnel d'un pouvoir, auquel le nécessaire partage entre les fils ne pouvait que mettre un jour fin. Or, Charlemagne ne songe pas à remettre en cause, sur ce point comme sur les autres, le droit et l'usage des francs. Depuis Clovis, le royaume se partage entre les héritiers mâles. La titulature est donc, en effet, inadéquate. Qu'on en juge. Charlemagne a deux couronnes royales, francs et lombards. La royauté est ethnique. On est roi d'un peuple. Et pourtant, il est roi de plusieurs peuples, que ne couvrent pas les appellations. Roi des francs, il est roi de ceux qui ne sont pas francs. Et aucun nom propre alors en usage ne peut caractériser cet ensemble de territoires sur lesquels s'étend l'autorité du roi des Francs hors du pays franc, qu'ils agissent en Gaule, jadis romaine, de l'Aquitaine, qui n'est pas pays franc, ou en Germanie, de la Saxe, qui n'est pas davantage pays franc. Roi des Lombards, il est roi en Italie, hors du pays lombard. Mais ses trois fils sont rois. Sous lui, l'un sans royaume aux côtés du père, l'autre en Aquitaine et le troisième en Italie. Ils sont rois sous un roi double roi. Deux fois roi et père de trois rois, tel est Charlemagne. Dans ces dernières années du 8e siècle, le titre royal ne convient vraiment pas. Alors on cherche. Les Alcuins, les Théodulfes, si vous voulez, mes chers confrères, nos prédécesseurs, ceux qui forment l'entourage intellectuel de Charlemagne s'interrogent. Et ils y sont poussés par le fait que l'Empire, le seul, celui de Constantinople, est apparemment vacant, depuis qu'en 797, la veuve de l'empereur Léon IV, Irène, a renversé son fils Constantin VI et lui a fait crever les yeux avant de prendre, au lieu de son titre de Basilissa, qui était celui d'une femme d'empereur, celui de Basileus, empereur. La distinction du masculin et du féminin existait déjà. En Occident, on ne se sent plus dans l'Empire romain, mais de surcroît, on se demande s'il est encore un empire romain. Le pape, lui, a été sévèrement mis à sa place. Son rôle est de prier. Le roi est là pour défendre le peuple chrétien. Et il se charge d'écrire au pape. Votre rôle est de prier, le mien est de me combattre pour le peuple chrétien. Charles se dit maintenant, bien sûr roi des Francs et des Lombards, gouvernant le peuple chrétien. Et bientôt, il se dit, et on le dit, gouvernant l'Empire romain. Mais cette fois, comme il ne va pas jusqu'à revendiquer un pouvoir sur Byzance, c'est bien de l'Europe occidentale qu'il s'agit quand on parle d'Empire romain. Encore faut-il souligner les limites de cet empire d'Occident que personne ne se hasarde à définir. Si en Germanie l'empire de Charlemagne dépasse l'empire romain, il est très en deçà dans la péninsule ibérique, dans l'Italie méridionale, en Sicile. Il ne touche pas aux terres européennes de l'empire byzantin, de l'Adriatique au Bosphore. Autant dire clairement, l'empire d'Occident, et c'est nous qui appelons ainsi l'empire de Charlemagne, ne parviendra pas à être l'Europe. C'est avec bien des précautions que j'ai naguère écrit que Charlemagne pouvait apparaître, et pardon de me citer entre guillemets, dans une certaine mesure, comme le père de l'Europe. N'exagérons rien, dans une certaine mesure. L'Empire ne sera pas davantage homothétique de la chrétienté. Au plus correspond-il pendant les 15 dernières années de la vie de Charlemagne et une partie du règne de Louis le Pieux à la chrétienté latine. Le Saint-Empire aura beau se dire romain autant que germanique. Cela ne trompera personne. Le Saint-Empire romain-germanique proclamé en 961 par Othon Ier n'est qu'une transformation de la royauté germanique et une captation par la maison de Saxe d'un héritage carolingien tenu pour prestigieux. L'appellation de roi des Romains, qui qualifie l'empereur élu mais non encore couronné, ne s'accompagnera en Italie que d'une perpétuelle revendication de pouvoir, génératrice d'affrontements avec le pape et d'affrontements avec un complexe politique où l'on trouve, avec les partisans gibelins d'un pouvoir impérial, surtout apprécié parce qu'il est lointain, des guelfes plus attachés aux Angevins de Naples qu'au pouvoir pontifical lui-même. Le Saint-Empire est et demeure une construction germanique. Et toutes les prétentions et interventions impériales en Italie ne peuvent masquer le fait que tous les princes électeurs sont les princes allemands. C'est comme un acteur du jeu politique que l'empereur joue sa partie en Italie, non comme un souverain qu'il prétend être. Dès lors, l'idéologie impériale va se développer, alimentant avec la papauté une interminable querelle aux rebondissements aussi nombreux que les causes renouvelées. Le conflit ne prendra fin que quand le Saint-Empire sera devenu un État comme les autres, fut-il, au temps de Charles Quint, celui sur lequel le soleil ne se couchait pas. Hors d'Allemagne et d'Italie, l'empereur ne parviendra jamais à réaliser ses prétentions. Et les juristes du roi de France affirmant au XIIIe siècle déjà que le Capétien est empereur en son royaume, diront en théorie ce que manifestent en fait les autres rois européens, le Saint-Empire n'exerce aucune souveraineté universelle, ce qui eût été au moins une souveraineté européenne. L'Empire aura donc été une illusion si on la rapporte à l'idée que nous nous faisons de l'Europe. Les raisons sont nombreuses. L'unité ne pouvait durablement s'accommoder de la patrimonialité des royaumes que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité de partager entre les enfants. Les distances, à peu près maîtrisées quant au temps de Charlemagne, le souverain franc, à l'initiative de ses actions politiques et militaires, deviennent une condition dramatique, je parle des distances, condition dramatique de l'exercice du pouvoir, quand il s'agit non d'agir, mais de réagir. Les incursions normandes ne laissent pas le loisir d'en référer à Aix-la-Chapelle, et il en eût été de même avec tout imprévisible. Les temps de relance sont trop longs, il en ira de même dans l'empire du Plantagenet, voire dans celui du Téméraire et dans celui de Charles Quint. Enfin, les mentalités n'étaient pas prêtes à une rapide unification juridique, économique, monétaire. Charlemagne a renoncé à la première, il a tenté une uniformisation des mesures, sans le moindre succès. Il n'a pas effleuré la deuxième, l'économique. Il a échoué à imposer durablement la troisième. C'est l'Église. L'Église latine, pour ne pas dire l'Église romaine, qui donne le mieux un contour réaliste à l'entité européenne. On ne saurait d'abord sous-estimer cet héritage de Rome qu'est la langue latine. Paradoxe quand on sait la place prise par le grec à Rome même, et pas seulement dans les dernières années. Le facteur d'unité que cette langue constitue permet tout simplement la mise en commun de la pensée. Très vite diffusée et imposée dans sa version latine, le symbole de Nicée, le credo, pose les bases d'une communauté dogmatique assurée dès lors que le royaume wisigothique finit par renoncer en Espagne à l'arianisme. Le symbole de Nicée est une rue d'unité ou un rude facteur d'unité. La Vulgate de Saint Jérôme, révisée à la fin du 8e siècle sur ordre de Charlemagne, pour en corriger les scories, mais non pour en changer le contenu. Cette Vulgate offre au clerc le texte fondamental de la réflexion, de l'enseignement, de la prédication. Tout le monde a les mêmes bases. Tout le monde a le même manuel sous la main, si je puis dire. L'Europe latine n'aura qu'une Bible jusqu'à la Réforme. Et la Réforme ne fera que changer la traduction, mais pas le contenu. Donc, l'Europe latine n'a qu'un système de référence et d'autorité au sens scripturaire du mot autorité, ce que l'on peut citer pour fonder son droit à parler ou à écrire. De là viendront la notoriété et la diffusion d'œuvres par lesquelles la pensée ancre cette unité. Je pense aussi bien à la Cité de Dieu de Saint-Augustin, aux institutions de Cassiodore, aux étymologies d'Isidore de Séville, qu'à la Consolation de philosophie de Boèce et au traité scolastique de Bède le Vénérable. Quand viendra l'heure des grands affrontements philosophiques et théologiques, avec la redécouverte de la métaphysique aristotélicienne et de ses versions, celle d'Avicenne et celle d'Averroès, on se fera et on fera cette révolution à l'intérieur de ce système et non pas contre lui. En distribuant les rôles dans l'évangélisation, la papauté contribue fortement à la diffusion de cette unité intellectuelle. Je pense aux moines italiens qui évangélisent l'Angleterre au VIe siècle, aux moines anglais ou irlandais qui évangélisent au VIIIe la Germanie, ou réforment la spiritualité dans le royaume franc. Je pense à Saint Colomban, un Irlandais. En imposant la liturgie romaine et le chant romain, j'ai dit chant romain pour ne pas l'appeler grégorien, qui est une appellation usurpée, il préexiste à Grégoire le Grand. En imposant la liturgie romaine et le chant romain, Charlemagne n'a en tête que l'unité de ses peuples. Ce qu'il veut, ce n'est pas promouvoir un chant plutôt qu'un autre, c'est que tout le monde chante de la même manière. Et ainsi, il assure la cohérence de la perception du fait religieux à travers l'Europe occidentale. Ni lui, Charlemagne, ni Louis le Pieux n'ont grand-peine à ce que la règle de Saint-Benoît s'impose de même à l'Occident, adaptée qu'elle est par le caractère mesuré de ses exigences, par l'équilibre de vie qu'elle instaure, à des esprits, il faut bien le dire, peu portés aux pratiques ascétiques des pères du désert ou des moines irlandais. Lorsque le pape et l'empire monastique constitué dès avant l'an 1000 par Cluny et ses prieurés feront cause commune au XIe siècle pour réformer les églises au lieu de laisser faire ou ne pas faire les conciles provinciaux, dans l'inévitable diversité de leurs approches, on aura fait un grand pas vers l'unité disciplinaire des esprits dans l'Europe latine. C'est Cluny qui romanise alors la liturgie espagnole. La notion de chrétienté et de chrétienté romaine l'emporte sur celle de province. Le rôle de la papauté devient perceptible, sans rapport avec l'étendue de l'État pontifical au sens territorial du terme, mais l'assiette territoriale du pouvoir spirituel et disciplinaire du Saint-Siège est de plus en plus perceptible et elle commence à ressembler à l'Europe occidentale. Organisée par la papauté parce que le siège de Saint-Pierre était l'un des rares membres de l'Église à ne pas être passé au pouvoir des laïcs, soutenue par l'ordre de Cluny, la réforme grégorienne illustre l'unité de l'Église d'Occident, au point qu'Urbain II peut à la fin du XIe siècle prendre à lui seul l'initiative d'une croisade dont les finalités sont à bien des égards en Europe réaliser une action commune de la chrétienté latine sous la houlette du pape. J'ai évoqué la langue latine. Son évolution a engendré une diversification dont sont nées les langues romanes. À l'intérieur même de l'espace que signifie l'Église d'Occident, elles laissent leur place aux langues d'origine germanique ou celtique. Mais pour appauvri qu'il soit, le latin des clercs demeure la langue de communication. Et c'est ce qui permet cet autre facteur d'unité qu'est le prêt de texte. Tout au long du Moyen-Âge et bien au-delà, car je pense aux humanistes de la Renaissance, les manuscrits n'ont cessé de voyager. On emprunte, on copie et on lit, parce que les intellectuels de toutes les régions lisent la même langue. Les livres ne sont pas les seuls à voyager. Les grandes écoles cathédrales et monastiques du XIIe siècle, celles de Bologne, celles de Chartres, celles de Paris, celles d'Oxford, sont des lieux de rencontre à l'échelle de l'Europe. Et ceux qui rentrent chez eux après y avoir reçu l'enseignement de leur choix donnent à la vie de l'esprit une dimension que les premières universités au XIIIe siècle portent à son apogée. Faut-il rappeler qu'en un même temps, au milieu de ce XIIIe siècle, on entend sur la rive gauche de la Seine les enseignements d'un Rénan, Albert le Grand, ceux d'un Brabançon, Sigé, ceux d'un Italien, Thomas d'Aquin. Tous ces gens-là enseignent dans le même temps à des étudiants qui eux aussi viennent de ce monde qui est le monde latin. Et ceux qui les entendent, collègues ou étudiants, sont de ce fait aussi bien allemands qu'anglais ou écossais. Vous le savez, l'Université de Paris comptera bien sûr une nation picarde, mais aussi une nation anglaise qui comprendra des écossais et des allemands. C'est le prestige de l'institution universitaire qui va paradoxalement mettre fin à cette communauté d'esprit à l'échelle européenne. Et oui, qui dit prestige dit multiplication. Chaque prince voudra son université afin de disposer des moyens de formation de ses élites administratives, judiciaires ou ecclésiastiques. On fera ses études chez soi parce que le prince entend avoir des gens formés chez lui pour le servir et pas tenter d'aller ailleurs. Il est certain que l'effort commun demandé par Urbain II à la chrétienté occidentale en vue de la première croisade est d'abord, aux yeux de ce pape réformateur, le moyen de manifester l'unité du peuple chrétien sous la bannière pontificale. Pour le pape, je l'évoquais tout à l'heure, la croisade doit être son entreprise. Ce que n'était pas la Reconquista espagnole, gouvernée par les princes, avec d'inévitables propos territoriaux. On sait ce qu'il en sera de la croisade, la même chose. L'aboutissement territorial est évident. L'Orient latin deviendra vite une conquête, et la Terre nouvelle, des affrontements occidentaux immédiatement importés. Mais la croisade doit être une entreprise commune, et le pape n'avait sans doute pas en vue les répercussions de cette communauté d'action sur la perception d'une unité. La chose est bien connue, c'est quand on se retrouve en terre lointaine qu'on ressent le mieux les traits que l'on a en commun avec autrui, ce qui ne veut pas dire qu'on fasse alors cause commune. Face à une autre civilisation, à une autre culture, à d'autres structures politiques ou familiales, à une autre religion vue de plus près que dans les chansons de gestes, ceux que l'on appellera en Orient les Francs conçoivent mieux que dans leur monde féodal ce qui les unit. Or, les Teutoniques s'étant vite détournés vers leur marge païenne, et les Espagnols ayant assez à faire chez eux, ces Francs d'Orient sont tout simplement les Européens occidentaux. C'est le même phénomène qui procure sur les places économiques le sentiment d'appartenance commune qu'éprouvent par exemple les hommes d'affaires italiens aux foires de Champagne, ou sur les places comme Bruges, Paris ou Avignon. Mais là s'arrête le compagnonnage. Les rivalités sont trop fortes. Pour le négociant, pour le banquier, l'Europe est un espace, mais où l'on s'affronte, même en temps de paix. Et c'est un horizon, mais entre autres horizons. Bruges n'est pas plus essentiel aux Génois que ne le sont Trébizonde au fond de la mer Noire ou Caffa en Crimée, où aboutissent les trafics de l'Asie centrale et de l'Europe orientale. Le Vénitien est chez lui, à Londres comme à Alexandrie, où les trafics avec l'Asie du Sud-Est ont leur tête de pont. Et le Brugeois correspond avec Novgorod et Riga comme avec Lübeck. L'un et l'autre se doivent de connaître l'Europe, ses places, leurs productions, leurs usages, leurs hommes. Mais le Vénitien et le Génois demeurent des rivaux. Ils n'ont en commun que des ambitions opposées et des intérêts divergents. Et le Brugeois n'est à Novgorod qu'un client. Les pèlerinages, eux, sont pour beaucoup dans la découverte que font du monde les hommes du Moyen-Âge. Dire qu'ils dessinent une Europe serait se moquer. On va à Jérusalem tant que la chose est possible. Ensuite, eh bien, on va toujours à Rome, on va à Compostelle, au Gargano, au Camadour, à Tours, ou au Mont-Saint-Michel, ou parfois beaucoup plus près, dans le village voisin où il y a un pèlerinage. Il n'y a aucun doute sur le fait que ces déplacements temporaires sont la principale occasion de la découverte des peuples par ceux qui n'ont aucun autre motif, politique, militaire ou commercial, d'aller ainsi de pays en pays. On peut dire que les pèlerinages ont aidé les hommes du Moyen-Âge à mieux connaître l'Europe, à savoir que les autres ne leur ressemblent pas forcément. Que les pèlerinages ont porté la circulation des idées, des modes, des façons de l'art. Mais c'est nous qui voyons là l'Europe. Ce que voit le pèlerin, c'est une route. Ce qu'il rencontre, ce sont des sanctuaires qu'il visite pieusement, des parlers et des usages qu'il découvre, et dont le plus souvent il s'étonne quand il ne les juge pas sévèrement. Il ne paraît pas que le pèlerin soit sensible à une appartenance commune, sinon à celle qui lui semble normale, à la religion. Si la carte des routes de pèlerinage dessine une certaine Europe, le pèlerin, lui, n'emprunte qu'une seule de ces routes. Alors comment les Européens voient-ils l'Europe ? Ne reportons pas dans le temps notre interrogation. Le mot Europe n'apparaît guère dans le vocabulaire de l'homme du 5e, du 10e ou du 15e siècle. Ni l'un ni l'autre ne savent que les Phéniciens désignaient ainsi le couchant, ce qu'on a appelé plus tard le Ponant. Éreb, en phénicien, c'est le soir, le pays du soir. Quant à l'enlèvement de la jeune Europe par Zeus, vous me pardonnerez de m'être conforté dans cette interprétation en interrogeant Jacqueline de Romilly, eh bien, il n'y a aucun rapport entre la jeune Europe enlevée par Zeus et le continent. Il ne deviendra que plus tard une source d'inspiration pour les artistes. Soyons clairs, jusqu'au XVIe siècle, le mot Europe est passablement oublié. Ce qui apparaît dans l'usage de l'Européen du Moyen-Âge, c'est l'idée de l'opposé. L'Européen occidental se définit par son contraire, les barbares, les infidèles, les sarrasins, les païens, éventuellement les Grecs, contre qui les croisades ont développé une hostilité que paraît aux occidentaux justifier le drame de l'Église qu'est le schisme, mais qui est surtout à la mesure des désillusions éprouvées et des erreurs commises de part et d'autre. Bref, il y a ceux avec lesquels on entretient des relations suivies, et ceux dont la fréquentation est ou passe pour impossible. La double barrière religieuse, née de l'islam et du schisme byzantin, conditionne une carte des mariages princiers, qui est à elle seule une définition. Nul ne pourrait dire que l'ère matrimoniale ainsi définie soit, dans l'esprit des gouvernants, celle d'une entité nommée Europe. La vue qu'en ont les géographes laisse bien apparaître un continent identifié, qui n'est pas un simple prolongement de l'Eurasie. Au reste, il le faut bien si l'on veut parvenir à la nécessaire répartition ternaire des terres émergées. Le monde ne saurait être une création parfaite s'il n'était ordonné en trois terres, séparées par trois mers. Mais cette figure que nous trouvons sur les maps mondes, comme au XIe siècle celle de Saint-Sevé, au XIIIe celle de Hereford, ce n'est qu'un dessin de savant. C'est un support scolastique de théologiens, de prédicateurs, de pédagogues, pour qui la carte est un symbole à l'appui de la mystique. La map monde est un symbole de la création, avec un centre, c'est Rome ou Jérusalem, avec une nomenclature irréaliste, des espaces conventionnels. Je pense à la map monde qui illustre au XIIe siècle le Liber Floridus et qui met en place les Huns, les Visigoths et le Septentrion sur une sorte de bout du monde qui n'a rien d'une figuration réaliste des terres et des mers. Au vrai, l'homme du Moyen-Âge n'a jamais vu de carte à l'échelle du monde. Les portulans du XVe siècle figurent la mer, ou plutôt des portions de mer et des angles de route maritime. L'angle qu'il faut prendre en quittant un port pour être sûr d'arriver dans un autre, et pas dans un autre. Les portulans ne figurent pas la terre. Le meilleur vademécum que l'on puisse, procurer à un voyageur, c'est un itinéraire rédigé qui conduit de ville en ville. Vous sortez de telle ville, vous prenez la route de telle autre. Et je pense au voyage d'Ibn Battuta à travers l'Afrique, il en va de même hors d'Europe. Il faut en convenir, les horizons sont étroits. L'auteur du Livre du Trésor, qui est une encyclopédie populaire rédigée vers la fin du règne de Saint-Louis, ne peut décrire la France que par morceaux. Après l'Allemagne, au-delà du Rhin, il y a la France, qu'on appelait la Gaule, et puis d'abord il y a la Bourgogne, etc. J'abrège la citation, elle pourrait durer quelques pages. On juxtapose les noms, on suit des agencements linéaires. S'il y a eu des cartes de France, comme il en fut quelques-unes en Angleterre, elles ne pouvaient être que de cet ordre. Ce n'est guère qu'au XIVe siècle, avec l'Atlas catalan de 1375, et au XVe, avec la map monde de Fra Mauro, qu'apparaît une capacité et un souci de figuration vraiment géographique. Encore, l'une et l'autre sont-elles limitées. De cette vue géographique, il est un étonnant témoignage qui, lui, n'a rien de scolastique. C'est celui que donne l'Espagne chrétienne de la Reconquista, cette reconquête sur l'islam qui reprend de la vigueur au début du XIIIe siècle, Las Navas de Tolosa, et qui s'achève en janvier 1492 à Grenade. Reconquête, certes, mais reconquête de quoi? Certes, pas d'Empire romain, des terres romaines occupées par les Arabes, non plus que des terres qui furent chrétiennes et sont passées à l'islam. Lorsque tombe Grenade, la reconquête est terminée. Les rois catholiques consacreront les sommes désormais disponibles à financer l'expédition de Colomb. Non à partir à la reconquête du Maghreb, qu'a quand même été celui de Septime Sévère et de Saint-Augustin. La reconquête, c'est bien celle de l'Europe, et du moins de l'Europe occidentale. Et à Grenade, en 1492, elle est achevée. Les traits communs sont nombreux, mais s'ils sont communs à l'Europe, ils ne passent pas alors pour tels. La place du combat pour la foi dans l'imaginaire, je pense aux chansons de gestes, comme dans la réalité politique et spirituelle, n'est pas le fruit d'une conscience européenne, mais d'une conscience chrétienne et latine. Le rôle politique et social du lien individuel de l'homme à l'homme, qui rompt avec le principe romain de l'égalité devant l'État, est un trait commun et il permet l'organisation de réseaux de solidarité, d'où la notion de frontière et de nationalité est absente. Mais ce n'est encore là qu'un trait commun, et il s'efface sensiblement, dès lors qu'à partir du XIIIe siècle, reparaissent les éléments d'une notion d'État qui va contribuer à la division. Le système vassalique et féodo-vassalique s'accommodait d'un espace non défini, celui des relations contractuelles, qui se jouaient des espaces et des frontières. On était le vassal de quelqu'un. Le système étatique qui commence de reparaître appelle la conscience d'un espace limité, est défini. Quant à l'héritage intellectuel qui va caractériser l'Europe moderne, il est paradoxalement plus méditerranéen qu'européen. Ni Platon, ni Aristote, ni Boèce, ni Saint-Augustin n'ont les apparences d'autorités européennes. Le filon littéraire développé autour du roi Arthur et de la Table Ronde, par exemple, n'a rien de méditerranéen, mais ses racines insulaires sont pour le moins marginales en Europe. Ni Tristan, ni Lancelot ne contribuent à donner un visage au continent. Il faudra le 19e siècle, le 19e siècle romantique et moyenâgeux, je n'ai pas dit médiéval, pour que les mythes trouvés dans les sagas nordiques, dans les légendes celtiques et dans le vieux fond du panthéon germanique prennent, notamment avec Wagner, leur place dans les références intellectuelles de l'Europe. Il faut conclure. Les hommes du Moyen-Âge ont mis en place l'essentiel de ce qui va cimenter l'Europe. Ils n'en ont guère eu conscience. À plusieurs reprises, ils ont frôlé la construction d'une Europe. À l'analyse que nous faisons quelques siècles plus tard, ils l'ont frôlé au temps de Charlemagne. Ils l'ont frôlé au temps de la réforme grégorienne et de la première croisade. Ils l'ont frôlé au temps des premières universités. En réalité, ce qu'ils ont perçu, c'est l'Occident chrétien et romain, non parce qu'il était européen ou parce qu'il était occidental, mais parce qu'il était pontifical et latin. En définitive, n'y a-t-il pas des Européens bien avant qu'on ne songe à penser l'Europe ?